France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, la nuit de la mode. La mode. Alors, quelle mode ? La mode, tout simplement, celle peut-être que nous ne suivons pas, celle que peut-être nos ancêtres personnels dans nos familles ne suivaient pas ou ne voulaient pas suivre ou croyaient ne pas suivre. La mode vestimentaire, celle qui nous dit parfois que nous ne sommes pas à la mode ou celle devant laquelle nous courons ou nous courons derrière ou tout simplement la mode que nous ignorons, qui nous laisse indifférents. Mais quelle mode ? Eh bien, la mode qui est bien une réalité, elle, une réalité sociologique, artistique, commerciale, culturelle. Voici donc une nuit spéciale consacrée à la mode, nuit à écouter, quelle que soit notre attitude, votre attitude face à la création, à la couture, à la haute couture. Parce que quoi qu'il arrive, l'histoire de la mode, eh bien, c'est une somme d'histoires individuelles, de passions, d'influences, de conflits, de succès et puis parfois d'échecs. Il y a une très belle exposition actuellement au Musée des Arts Décoratifs au 107 rue de Rivoli à Paris qui nous présente depuis le 7 avril et jusqu'au 14 août 3 siècles de mode. Le nom de cette exposition ou le sous-titre, je ne sais pas, c'est Fashion Forward, 300 pièces de mode féminine, masculine et enfantine du 18e siècle à nos jours. Bonsoir Pamela Golbin.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors tout de suite, ça veut dire quoi Fashion Forward ?
Fashion Forward, en fait, c'est très simplement une avance rapide sur la mode, puisqu'il s'agit de 3 siècles de mode. On démarre en 1715 jusqu'en 2016 finalement, donc 301 années. Voilà l'avance rapide que le visiteur pourra justement vivre dans cette aventure qui démarre en 1715 avec l'époque Régence.
Alors, vous êtes la conservatrice générale mode et textile 1940 à nos jours au Musée de la Mode qui est donc au Musée des Arts Décoratifs, Pamela Golbin. Vous êtes la commissaire générale de cette exposition, donc, dont la visite nous a donné l'envie de consacrer toute cette nuit d'archives et de rencontres avec la mode, avec les créateurs et puis la haute couture. Est-ce que vous voulez le programme de cette nuit ?
Avec plaisir.
Bien. Alors, dans une demi-heure, nous pourrons suivre une tribune de Paris présentée en 1949 sur la chaîne parisienne par Paul Perronnet. Il réunissait autour de lui Magie Rouff, Jean Gaumont-Lanvin et Lucien Vogel. Et tout le monde se demandait comment se crée, comment s'établit la mode. Puis une émission de 1954 des aînés et des copains consacrée par Pierre Deveau et Pierre Oberlé à Paul Poiret. Puis une mémoire du siècle, Bettina Graziani, ancien mannequin vedette au micro de Jeanne Gozette, c'était en 1981 sur France Culture. Et puis dans la nuit, nous recevrons le créateur de haute couture Franck Sorbier. Nous poursuivrons cette nuit spéciale, Nuit de la Mode, avec une émission qui date, elle, de 1997, signée Jacques Le Goff. C'était les lundis de l'histoire et le sujet était le suivant, Parade et parure, l'invention du corps de mode à la fin du Moyen-Âge. Il était en compagnie d'Odile Blanc, Jacques Chiffolo et de Michel Pastoureau. Alors là, on remontera beaucoup plus loin dans le temps qu'avec votre exposition, Pamela Golbin. Nous explorerons ensuite les coulisses d'une grande maison de couture, plusieurs maisons de couture, en fait, Jacques Fatt, Schiaparelli, Lanvin, Balenciaga. Et c'était en 1951 sur la chaîne nationale. Et Lise Elina, la journaliste, recevait entre autres Christian Dior. Voilà, on saura tout de la direction des maisons de haute couture aux Arpettes. Suivra une conférence signée Pierre Balmain, intitulée « Comment j'habille mes rêves ?» C'était en 1954. Puis une rencontre avec des mannequins hommes. C'était en 1974 sur France Culture. Et avant cela, nous nous serons intéressés à une mode très particulière qui est absente de votre exposition, Pamela Golbin, celle des Zazous. C'est en compagnie de Gérard de Cortance qui vient de publier un roman chez Albin Michel intitulé précisément Zazous. Alors voici pour le programme, Pamela Golbin. Avant de remonter le temps jusqu'au XVIIIe siècle, dites-nous si vous avez une préférence au XXe siècle pour un couturier, des couturiers particuliers. Puisque votre, donc je l'ai dit, vous occupez de ce musée. 1940 à nos jours. Vous êtes allé beaucoup plus loin pour l'exposition, mais de 1940 à nos jours, c'est qui vos passions ?
Ah, la liste est très longue et on a bien évidemment des préférés, mais on essaye toujours de regarder le travail de chacun. Et donc, que ça soit dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, il y a toujours une pléthore de créateurs et des couturiers qui attirent nos regards systématiquement.
Mais quand même, petite préférence. Vous avez travaillé sur Madeleine Vionnet, Valentino, il y a un livre, Marc Jacob aussi. Donc voilà, on peut peut-être décider ou soupçonner.
C'est toujours difficile. C'est le prochain projet qui devient la préférence du jour. Et on a toujours un petit faible pour tous ceux sur qui on a travaillé. Bien sûr, les années 20 et 30, pour moi, sont particulièrement touchants à la fois parce que c'est un moment de grande créativité. C'est aussi un moment où les femmes prennent en quelque sorte la couture sous toutes ses coutures et avancent techniquement et esthétiquement le vocabulaire de la mode. Donc, s'il y a une préférence en ce qui concerne la période, c'est clair que le purisme et la technicité avec cette beauté de proportion féminine des années 20-30, c'est toujours avec grand plaisir que je retrouve ces robes-là.
Et vous-même, c'est familial, Pamela Golbin, c'est un intérêt qui remonte à quand dans votre famille, dans votre histoire personnelle?
C'est vrai que la mode est une question d'histoire personnelle. Et la première exposition mode que j'ai vue, j'avais 5-6 ans, c'était au Palais du Louvre avec ma grand-mère, bien évidemment. Et c'était un moment extrêmement fort pour moi. Certes, c'est très beau, mais c'est surtout toutes les questions que ça m'a amené à poser. Comment est-ce qu'une femme portait un panier au XVIIIe siècle? Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment pouvait-on passer les portes avec des accoutrements qui étaient si volumineux? Toutes ces questions m'ont fait poser justement la grande question, qu'est-ce que je vais faire plus tard? J'étais plutôt historienne d'art de formation, et donc après, les choses se sont faites, et c'est plutôt tout à fait par hasard que je me suis retrouvée conservateur de musée, et ce maintenant depuis 23 ans.
Comment vous avez pu imaginer cette exposition? Parce que c'est bien beau de parler de la mode, de montrer 3 siècles d'histoire française, d'histoire de la société, d'une certaine société de la France, bien entendu. Il faut attirer des néophytes en plus, des passionnés.
Enfin, déjà, c'est un anniversaire. On célèbre les 30 ans de cette collection mode, qui est la collection nationale de référence en ce qui concerne le costume et le textile. Alors, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait à cette occasion? Olivier Gabé, notre directeur actuel, a voulu que la mode sorte des galeries permanentes et se retrouve pour la première fois dans cette prestigieuse nef. Et donc, défi numéro un, sortir de ces galeries avec les vitrines qui protégeaient les œuvres et justement, au contraire, tout ouvrir pour que le visiteur se sente à la fois happé par l'histoire, mais surtout très proche pour voir la qualité et la créativité qu'on voit avec ses œuvres. Et donc, tout de suite, on s'était dit, faisons une frise chronologique de 3 siècles de mode à partir seulement de nos collections. Sacré défi. Déjà, il faut avoir les collections. On a la chance d'avoir plus de 150 000 œuvres qui nous appartiennent. Et donc, le choix était difficile. Et c'était à cette occasion qu'on a fait une grande campagne de restauration pour pouvoir à la fois offrir des nouveautés, mais surtout sortir les chefs-d'œuvre de la collection.
Alors, où étaient-ils ces chefs-d'œuvre? Ils sont cachés dans des greniers, dans des caves dans...
On avait une réserve au moins 2 et moins 3 sous-sols du Louvre. Malheureusement, il y a quelques années, les architectes se sont rendus compte que finalement, la Seine et l'éventuel cru de la Seine étaient extrêmement dangereux. Et donc, tous les réserves des musées qui se retrouvaient près de la Seine, que ce soit le Louvre, le musée d'Orsay, le centre Pompidou, on a été obligés de tout sortir. Et maintenant, c'est dans un endroit plutôt discret dans le nord de Paris et pas tout à fait à côté.
Alors, pour l'instant, en tout cas, la Seine ne menace pas. Elle menacera sans doute certainement un jour. Et on peut voir donc cette exposition encore pendant deux mois, enfin jusqu'à début août. Alors, vous l'avez dit, Pamela Golbin, la chronologie. Mais avant 1715, d'ailleurs, l'émission de Jacques Le Goff, que l'on pourra entendre au cours de cette nuit, le précise bien. Ça a été peut-être inventé au Moyen-Âge. Et encore, on sait bien que les femmes et les hommes s'habillaient, la cour, les, les personnages riches faisaient travailler des artisans et que c'était un signe de richesse, un signe de pouvoir. Donc pourquoi commencer à 1715 ?
Pour deux raisons très simples. La première, c'est que les collections sont extrêmement riches à partir de l'époque de Louis XV. C'est vrai qu'on a des pièces extraordinaires qui datent déjà de l'époque du Moyen-Âge. De plus en plus, au XVIe et XVIIe, on a des exemples spectaculaires également, mais parcellaires. Et donc, c'est véritablement à la fin de la règne de Louis XIV que on a un pléthore de choix. Et ensuite, 1715, ça marque aussi l'arrivée de Louis XV et surtout l'assouplissement de la rigueur instaurée par Louis XIV dans la cour. Ce qui veut dire qu'on a des nouveautés, si on peut les appeler ainsi, dans la garde de robes à la fois féminines et masculines, notamment la robe volante qui permet un confort, une aisance, si on peut l'appeler ainsi, au XVIIIe siècle, du corps que jusqu'alors on ne connaissait pas. D'où le fait qu'on démarre en 1715 et ça permet également d'avoir ces trois siècles et non pas quatre siècles de mode.
Alors on se posera la question dans la tribune de Paris qui suivra notre entretien, Pamela Gulbin, sur comment se crée, comment s'établit la mode, mais au XXe siècle on pouvait, après la guerre, y répondre, on peut encore aujourd'hui répondre, mais au XVIIIe siècle, c'était pas vraiment un métier, il y avait pas des, on n'allait pas voir un couturier qui disait l'hiver prochain, la femme portera telle robe, etc. Pourquoi, je veux bien qu'on ait décidé de changer l'étiquette et se dire sous Louis XIV c'était trop compliqué, on va changer, mais est-ce qu'il y avait des décisions, des décideurs?
Ah oui, c'était très très simple, il n'y en avait que deux, le roi et la reine. Et donc il fallait absolument suivre les consignes données par ces deux personnages de haute vol. Donc c'était encore plus simple qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'un magazine ou pas d'un autre, même s'il y avait déjà à la fin du XVIIe siècle des magazines de mode, il faut le dire, les fameuses gazettes, et il y avait aussi ces fameuses poupées de mode, les Pandora, qui étaient envoyées à toutes les cours d'Europe, qui permettaient justement à la France d'imposer son goût par ailleurs en Europe.
Alors c'était vraiment, il y a eu la Régence, ensuite Louis XV et la Reine, mais eux-mêmes étaient bien influencés, pourquoi ils décidaient finalement qu'on allait rallonger, raccourcir, élargir, desserrer, colorier, enfin... Qui décidait? C'est pas un couple certes, mais enfin ils étaient peut-être...
Enfin, c'est une programme politique qui se met en place, stratégique à la fois pour les arts décoratifs, mais tous les métiers d'art qui étaient extrêmement importants dans la société, dans la culture et dans l'économie française. On voit déjà avec les lois somptuaires l'importance justement de la mode, les lois somptuaires qui interdisaient certaines personnes de porter certaines couleurs, certains typologie de vêtements selon leur rang dans la société. Et donc, tout était extrêmement réglementé. C'était vraiment l'habit qui fait le moine. Chacun pouvait voir dans autrui dans quelle place de la société il était. Et donc, on pouvait très facilement avoir une relation sachant à qui on avait affaire.
Mais c'était codifié par des écrits ?
Bien évidemment, c'était absolument codifié. Et à la cour, selon le rang social, on avait droit à certains privilèges que les autres n'avaient pas.
Alors, par exemple ?
Par exemple, pouvoir s'asseoir, hein, soit sur un fauteuil, soit sur un tabouret, ou sinon être debout pendant des longues heures. Tout dépendait de son rang. Aussi pour la coiffure, très important avant une fête, c'est que la reine et ensuite les princesses qui pouvaient se faire coiffer le jour même de la soirée, sinon il fallait attendre très longtemps avant de se faire coiffer à temps pour la grande fête.
Mais alors il fallait être coiffé telle que la reine l'était, ou au contraire être moins bien coiffée qu'elle, parce que sinon c'était terrible.
Oh, les histoires, déjà aujourd'hui, dans une fête, il y a des histoires pas possibles, alors imaginez-vous, il y a trois siècles, c'était effectivement extrêmement codifié et complexe, mais ce qui montre dans l'exposition, c'est que on avait des formes qui vont changer très doucement, que ça soit pour l'homme ou la femme. Au XVIIIe siècle, il y a peut-être deux, trois ruptures très très simples qui se font pendant la le siècle. Déjà au 19e siècle, on va voir que la cadence s'accélère. On a tous les 10 ans presque des changements radicaux à la silhouette pour arriver ensuite à l'époque contemporaine. Et là, pour le coup, chaque saison change radicalement de la saison d'avant.
Alors, donc, revenons un tout petit peu, Pamela Golbin, au XVIIIe siècle. Vous l'avez dit, cette exposition est chronologique et c'est très très bien. Parce que vous dites que les robes sont sorties, enfin les vêtements sont sortis des vitrines, mais il y a encore des vitrines. On fait un peu du lèche-vitrine, c'est-à-dire mais du lèche-vitrine de luxe, et très protégé par ce lieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas, sur un trottoir où il pleut.
C'est
voilà.
Vrai.
Alors, on voit par exemple des choses très très extravagantes. On voit, j'ai vu un habit de singe.
Il est fantastique, oui. Ce petit habit, qui effectivement date de l'époque Louis XV, qui a été donné d'ailleurs par Monsieur Hubert de Givenchy, il faut le dire, le grand couturier. Et tout comme aujourd'hui, les hommes ont soit des chats, soit des chiens, en tout cas des animaux de compagnie. Au XVIIIe, c'était pareil. Et le plus chic était, bien évidemment, de pouvoir avoir son propre singe. Et ce singe était très bien habillé, puisqu'il portait en miniature le fameux habit à la française porté par son maître, mais taille singe.
Il y avait aussi je me souviens d'avoir vu un flacon, une manufacture de Chelsea, avec représentant un petit singe en porcelaine. On voit, c'est-à-dire que c'était un objet qu'il portait lui ou qu'on lui présentait.
Oui, ce petit objet, en fait, c'est un flacon de parfum dans lequel on pouvait mettre deux essences différentes. Et donc, si on changeait d'avis en plein jour ou en plein nuit, on pouvait justement choisir deux parfums très différents. Et chaque tête s'ouvre sur cette petite bouteille pour laisser sortir ces délicieuses odeurs.
Alors, les chinoiseries, une pièce d'estomac. Alors, vous pouvez nous dire ce qu'est une pièce d'estomac. Alors, les auditeurs ayant déjà vu l'exposition le savent, ou ceux qui ont lu le magnifique livre « Trois siècles de mode », donc Fashion Forward, publié par le Musée des Arts Décoratifs, voient tout ça et peuvent prendre plus le temps, finalement, de lire, d'admirer, en étant assis confortablement. Mais dites-nous un peu ce que c'est cette pièce d'estomac.
En fait, cette fameuse pièce d'estomac est tout simplement un tissu qui est triangulaire, qui était mis devant sur le corsage. La robe à la française avait deux parties, ou trois parties. Il y avait la jupe, il y avait le manteau, et cette fameuse pièce d'estomac qui couvrait le devant du corsage, en quelque sorte. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on pouvait très facilement changer sa pièce d'estomac pour soit rendre plus formelle la robe qu'on portait, soit au contraire la rendre beaucoup moins formelle. Et donc on pouvait avoir une robe et la changer, changer ses goûts grâce à cette pièce d'estomac qui était facilement dissociable.
C'est un objet de torture quand même un peu, non ?
Non, c'est pas un objet de torture.
C'est pas le corset ?
C'est pas un corset, le corps à baleine était déjà mis en place et effectivement structuré très bien le torse de la femme, tout comme le corset et les crinolines du 19e siècle. Mais c'est vrai qu'en le regardant avec nos yeux d'aujourd'hui, on a du mal à croire qu'on portait tous ces objets avec plaisir. C'est vrai que la notion de plaisir est difficile, tout comme par exemple, il faut savoir que les chaussures n'avaient pas de pied droit au pied gauche, ce qui voulait dire que l'équilibre était parfois difficile à atteindre, d'où ces messieurs qui avaient toujours des cannes à l'époque, pour garder cet équilibre avec des talons très hauts, et donc c'était une façon plus facile de ne pas tomber.
Alors les messieurs manquaient de tombe-choir, les femmes s'évanouirent, d'ailleurs il y a toute une littérature, on comprend qu'à la fin d'une soirée comme ça, on accuse la chaleur, on accuse je ne sais quoi, ou la vision à 10 mètres d'un amant qui n'est plus l'amant, et qui, enfin là, quand c'est dans les vrais romans, mais c'était simplement parce que les pauvres femmes étaient serrées au maximum et quand même torturées.
Enfin, torture, c'est un mot qu'on utiliserait aujourd'hui. À l'époque, je ne suis pas sûre qu'on utiliserait le même mot. Mais il faut dire que ça soit au 18e ou au 19e, si la femme porte ce corps à baleine et ensuite ce corset, son corps est habitué depuis la plus jeune âge. Donc, ce n'est pas comme si, du jour au lendemain, elle va mettre un corset et elle va être complètement asphyxiée par son corset. C'est un objet qu'elle connaît très bien et qu'elle va justement porter pendant des longues années avant d'arriver à l'âge mature, en tout cas à l'âge d'être mariée. Et elle va continuer ensuite, même avec un corset pour femme enceinte, à porter cet accoutrement qu'aujourd'hui on a du mal à accepter.
Alors Pamela Golbin, vous, donc visuellement, quand on se promène dans cette exposition, je l'ai dit, il y a les arches, les vitrines, il y a des robes qu'on pourrait dire en liberté, et puis on voit très très bien justement comment la société, alors la société encore une fois, c'est la société régnante, riche, évolue, et joue sur les ruptures, c'est-à-dire que c'est politique, on va décider que, eh bien, évidemment il y a la période révolutionnaire, et puis après il y a le directoire, enfin, et puis l'empire, etc. Donc les étiquettes reviennent en courant.
Toujours.
Et on essaye de toujours aussi, parce que c'est économique, c'est commercial, de donner aux courses européennes et puis aux riches, plus tard au 19e siècle, aux riches américains qui vont commencer à émerger. Il faut qu'ils comprennent que c'est Paris qui décide, ou Versailles.
Ben là, c'est,
ou Fontainebleau.
C'est vrai que Paris est le centre de toute cette créativité, que ce soit dans la mode ou dans les arts décoratifs. D'où la raison que dans ce parcours de 3 siècles de mode, on a également intégré des chefs-d'œuvre de la collection des arts décoratifs. Le visiteur va trouver en contexte, que ce soit des tapisseries fin 17e siècle, des boiseries du 18e siècle, des papiers peints panoramiques exceptionnels à partir du 19e siècle, que ce soit signé des Fossés, que ce soit signé Zuber, toutes ces grandes maisons qui vont donc décliner la créativité parisienne et seront exposées avec les œuvres costumes pour donner justement ce dialogue entre tous les arts décoratifs à un moment donné.
Alors, il y a aussi ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, l'Empire va imiter, c'est-à-dire qu'on abandonne ce qui s'est passé les décennies précédentes, le temps des ténèbres, et puis, sauf qu'on va rechercher dans l'Antiquité, on va imiter l'Antiquité également, enfin on passe son temps, on le sait bien, à être à la mode, à dépasser la mode, et à réimiter, à réinventer,
heureusement, tout revient. Heureusement, c'est une question à la fois cyclique et surtout de nouveauté, il faut toujours aller à la prochaine nouveauté. Et c'est vrai qu'avec cette période de l'Empire, on a une grande liberté. Une liberté à la fois physique, effectivement politique pour certains, pas pour tous. Et on voit tous les structures qui étaient si reconnaissables au XVIIIe siècle, que ça soit le corps à baleine, que ça soit le panier, disparaître du jour au lendemain. Et voilà, ce corps qui est tout simplement vêtu d'une toile de coton, simple et virginale, mais...
La robe tunique.
C'est une robe tunique avec la taille très très haute, justement, qui laisse la vraie taille disparaître. On a les seins qui sont mis en exergue et aussi on a les bras qui sont complètement dénudés avec des petites manches à ballon. Et
les manteaux amovibles.
Des manteaux, des traînes amovibles également, et justement, ceci va durer très peu de temps, finalement, même pas 10 ans avant que la mode ne redémarre pour essayer de retrouver la taille véritable. Et de là, on a ces volumes exceptionnels qui démarrent à partir de 1840, la fameuse crinoline.
Et puis, les robes à transformation aussi.
Et justement, ces robes à transformation permettent à la femme d'avoir une seule jupe et plusieurs corsages, ce qui permet justement de pouvoir s'habiller avec la même jupe le matin, l'après-midi et le soir, puisque à chaque fois, il y a un corsage adéquat pour la fonction de la journée. Et donc efficace, surtout quand il s'agit d'un grand investissement, puisque pour avoir ces robes à crinoline, il faut compter plusieurs dizaines de mètres de tissu, tellement la taille de la jupe devient énorme. La femme, d'un seul coup, prend sa place parfois entre 1, 2, 3 mètres carrés de place, ce qu'il faut, il faut quand même lui laisser cette place. Et finalement, cet homme Pan, qui était très présent au XVIIIe siècle, devient de plus en plus discret et il est tout de noir vêtu.
Oui, très austère, hein, la mode masculine est austère quand même, au XIXe siècle.
Absolument. Mmh. Il laisse sa place à la femme qui, sans aucun problème, la prend et aussi, grâce à la complicité des couturiers, va imposer justement cette place dans la mode. Alors, les couturiers, ils arrivent dès 1857, donc on est au moment de la période de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie, qui vont tous deux faire énormément pour lancer l'industrie du luxe et surtout qu'elle reste centré ici à Paris. Et donc, on va voir dans cette salle crinoline avec le papier peint de l'image de notre impératrice Eugénie, marraine de notre époque, on va voir ces robes extraordinaires qui se mettent de plus en plus en place.
Et puis c'est le début de, finalement, des collections saisonnières, enfin, les premiers défilés. Alors, Charles-Frédéric Woerth.
Voilà.
C'est lui?
C'est lui.
C'est ce que j'apprends dans votre exposition, Pamela Golbin.
C'est lui, absolument. Il faut un Anglais pour lancer la haute couture parisienne. Mmh. Et c'est une très belle collaboration parce que notre cher Charles Frederick Woerth, qui ouvre sa maison dès 1857, va lancer effectivement les collections saisonnières d'une part, donc printemps, été, automne, hiver d'autre part. Et ensuite, il va faire une chose absolument révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va signer chacune de ses robes. La griffe moderne est née. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'était la femme qui choisissait ses tissus, c'était aussi la femme qui choisissait ses modèles. Ici, c'est le couturier maintenant qui va dire aux femmes ce qu'il faut qu'elles portent. Et comment il le fait? À travers, effectivement, son travail sur la griffe, mais aussi, il se présente comme artiste, d'où sa fameuse photo prise par Nadar, le célèbre photographe.
Alors, il a pignon sur rue, j'imagine, aussi. Donc, c'est le début des boutiques de mode, enfin, des boutiques de grands couturiers.
On dirait pas boutique, c'est plutôt une maison de couture. Donc, il est établi rue de la Paix, juste à côté de Jacques Doucet, un autre très, très grand couturier. Et ce sont des véritables maisons, donc des hôtels particuliers, qui accueillent des centaines, voire des milliers de clientes. Et il faut savoir qu'ils vont faire facilement 5 000 à 10 000 robes par an. Ce sont des vraies entreprises. Et on va voir jusqu'aux années 1920-30, ces maisons comportent entre 1200 voire 1500 ouvrières, soit sur la rue de la Paix, soit côté avenue Montaigne. Donc ce sont véritablement des entreprises très importantes.
C'est-à-dire qu'on habille les femmes principalement, on habille les petites filles également, c'est puisque vous l'avez dit, Pamela Golbin, enfin on l'a dit, c'est une exposition sur la mode féminine, masculine et enfantine. On habille les petits singes aussi, mais ça c'est fini, c'était pour le 18e siècle. Et puis on habille les poupées. On les habille aussi merveilleusement qu'on habille les enfants et les adultes.
Alors c'est vrai que dans l'exposition, on a mis énormément de pièces de jouets, mais qui ne sont pas toujours des jouets d'ailleurs.
Les poupées Lafitte d'Ezira.
Exactement, les poupées Lafitte d'Ezira sont des poupées en cire signées par Madame Lafitte et Madame d'Ezira qui pendant une dizaine d'années, entre 1910 et 1920, vont créer ces poupées qui nous ont permis justement de montrer à la fois les attitudes de ces époques et aussi toute l'accessoirisation de chacune de silhouettes.
Avec des références à l'Empire aussi, il y avait un siècle avant quand même.
Oui, oui, mais c'était la mode des années 1920, enfin 1910, juste avant la guerre. Et donc, c'était des poupées de mode, pas tant pour jouer avec, mais exposées dans les maisons de couture.
Et puis alors, il y a Pamela Golbin, en fin de cette belle exposition 3 siècles de mode, donc au Musée des Arts Décoratifs à Paris, rue de Rivoli, il y a soudain l'arrivée dans la nef, sous la nef. Et alors là, c'est très étrange parce que c'est nous qui défilons, en somme, c'est nous, le public. Au lieu de voir défiler de jeunes femmes trop maigres d'ailleurs, c'est nous qui passons devant des robes, enfin voilà, devant les mannequins en cire ou en bois ou que sais-je.
En fait, effectivement, l'exposition se divise en trois parties. Les deux premières, le 18e et 19e siècle, sont plutôt assez intimistes dans ces galeries fermées de part et d'autre.
Lumière un peu sombre.
Voilà, de part et d'autre, la rue de Rivoli. Donc, les galeries Rivoli, les galeries Tuileries sont comme des petites vignettes qui permettent de mieux comprendre chaque rupture dans cette histoire. À partir des années 1939, la rupture est totale et complète. Et donc, on arrive dans cet espace spectaculaire qui est la grande nef des arts décoratifs, qui a presque six étages d'auteur de plafond, donc il y a de l'espace pour une
très belle lumière.
Merci, oui.
Des escaliers blancs. Un décor très blanc, vraiment magnifique. Quoi.
Voilà, et donc dans cet espace, il y a plus de 90 modèles qui déclinent la mode depuis 1939 jusqu'en 2016 sur, effectivement, des escaliers presque géants. Ces escaliers, ces marches qu'on retrouve dans toutes les maisons de couture qui étaient au début du siècle le lieu le plus sacré de la maison où les clientes prestigieuses montaient ou descendaient pour sortir. Et donc, on s'est pris de ce vocabulaire très couture. Et on a recréé ces fameuses marches sur lesquelles vont se poser les 90 modèles qui déclinent les 70 ans d'histoire contemporaine.
Alors là, cette période contemporaine, elle explose en couleurs.
C'est vrai qu'elle explose en couleurs, vous avez tout à fait raison de le dire. Ça démarre très doucement puisque les années 40, c'est plutôt dans le noir que ça se décline. Et à partir des années 50, avec ce new look de Christian Dior qui va lancer en 47, c'est vraiment l'âge d'or de la couture parisienne, avec à la fois des matières assez somptueuses, mais aussi des broderies, que ça soit fait par la maison Le Sage, Rébé, absolument extraordinaire, parfois narrative, parfois abstraite, mais toujours avec ce savoir-faire à la française.
Mmh. Le premier pantalon,
C'est vrai, il y a le pantalon proposé par André Courrèges en 1965 avec la collection Bombe, dite du jamais vu. C'est vrai, aujourd'hui, on a du mal à y croire, mais cet ensemble pantalon est extrêmement important. Il faut savoir que dans les années 60, la femme n'avait pas le droit même de signer un chèque sans que son mari lui donne ou lui accorde cette faveur quelque part. Et donc, porter un pantalon, c'était interdit complètement. Elle n'était même pas admise dans les restaurants à la mode, puisque la femme, il fallait qu'elle porte une jupe. Que la haute couture, enfin, signe ce manifeste très moderne, va changer énormément ce qui se passe après, notamment dans les années 70, avec à la fois la couture, mais l'avancement créatif du prêt-à-porter. Et on voit justement le travail autour de la mode masculine qui se met en place à partir des années 70 également.
Il y a beaucoup de la mode masculine sous la nef.
Il y en a, puisqu'on voit déjà en 70 cette robe unisexe pour hommes et pour femmes, signée Jacques Esterel, entièrement brodée. Donc attention, hommes, si vous voulez une robe, on en a déjà à disposition. Au musée, absolument. Mais on voit véritablement ce travail sur la création masculine, au mode masculine, qui se met en place véritablement à la fin des années 60. Et donc on termine en 79 avec ce couple signé Thierry Mugler, avec justement l'ensemble en cuir anatomique pour hommes et la robe en déclinée éplissée pour femmes de la même collection.
Et là, c'est vrai qu'on n'est plus tellement dans le musée, là, dans l'exposition. On est un peu comme, voilà, on vient voir un défilé de mode, mais un défilé sur 30-40 ans, et c'est nous qui marchons, qui tournons autour, qui contournons les mannequins.
C'est vrai que l'idée à la fois de ces mannequins Stockmann, mais qui ont été mis en scène par le chorégraphe Christopher Wheeldon, l'idée c'était qu'il y ait un dialogue à la fois entre chaque période, puisqu'on voit parfois à travers certains modèles, les modèles de 30 ans plus tard, mais surtout on voit un dialogue qui se crée entre le visiteur et les vêtements qui sont exposés, justement. Est-ce que on se souvient du mariage, de la tante? Est-ce qu'on se souvient des films? Est-ce que tout est là pour justement à la fois éclaircir des moments de mode, ces ruptures presque systématiques à partir des années 40, mais aussi des histoires très personnelles de chacun qui se retrouvent justement grâce à ces petites madeleines qui sont les robes exposées.
Oui, c'est vrai, que parce que évidemment, on l'a dit en début de notre entretien, Pamela Golbin, c'est l'histoire de la mode, de la haute couture, c'est une histoire commerciale, culturelle, artistique, mais c'est fait de tas d'histoires de gens qui travaillent, et puis des souvenirs ou inventés, pas inventés, mais en tout cas vécus ou vus dans un film, dans un roman. On a l'impression d'être dans le cinéma, pas dans la rue. Hein, on voit peu de femmes habillées ainsi dans la rue. Enfin, voilà, faut être...
C'est vrai qu'il y a mode et vêtements, et là, ayant les collections mode de référence, il fallait vraiment sortir les pièces mode, mais les pièces mode qui sont au-delà des pièces montrées sur la red carpet, le tapis rouge.
Ah, voilà.
Et en même temps, c'est la créativité qui a toujours poussé la mode parisienne, et c'était cet hommage qu'on voulait rendre à la couture et au prêt-à-porter ici à Paris.
Alors, il est très bien rendu, et puis le livre, donc 3 siècles de mode, qui doit peser 2 kilos, 3 kilos, aussi rend bien l'exposition. Je dis ça parce qu'il y a quand même des auditeurs qui viendront peut-être pas à Paris et qui n'auront pas le temps avant le 14 août de voir cette exposition. Mais en tout cas, le livre, lui, prolonge, enrichit finalement cette exposition. Et puis, vous avez publié aussi un autre livre, Pamela Golbin, sur la quoi, alors, conversation sur la couture, discours sur la couture, ça s'appelle ?
En fait, c'est Secret de couture.
Secret de couture.
Je fais parler les légendes de la couture française, puisqu'il s'agit de 11 entretiens posthumes et exclusifs entre moi et les 11 grands couturiers, depuis Paul Poiret jusqu'à Alexander McQueen. Alors, la particularité, c'est que toute réponse qu'ils m'ont donnée, en fait, ce sont des paroles authentiques. J'ai épluché des milliers d'entretiens avec tous ces grands noms de la couture, et j'en ai fait des fantastiques conversations entre moi et eux pour rendre à la fois la parole à ces maîtres de la mode qui ont fondé les grandes maisons de couture aujourd'hui. Que ça soit Poiret, que ça soit Dior, que ça soit Balmain, que ça soit Chanel, que ça soit Vionnet, Schiaparelli, Saint-Laurent, tous sont passés par cet exercice de style qui justement les rend vivants et permettent aux lecteurs de comprendre l'histoire de la mode à travers leurs yeux.
Alors, Secret de couture, c'est publié chez Rizzoli, Pamela Golbin. Et puis, donc, l'exposition, eh bien, c'est jusqu'au 14 août au Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli.
Absolument.
Dans le 1er arrondissement. Eh bien, voilà ça. Eh bien, cette nuit de la mode va se poursuivre. Donc, une tribune de Paris, comment se crée, comment s'établit la mode. Puis, Paul Poiret, une émission sur Paul Poiret, dont vous parliez à l'instant. Une rencontre avec Bettina Graziani, ancien mannequin vedette. C'est une émission diffusée en 1993. On aura ensuite un entretien avec Franck Sorbier. Puis, on pourra écouter les lundis de l'histoire de Jacques Le Goff, Parade et parure, l'invention du corps de mode à la fin du Moyen-Âge. Une période que vous n'avez pas traitée, que vous traiterez peut-être un jour dans
Volume 2.
Au même endroit dans le volume 2. Et on ira dans les coulisses d'une grande maison de couture. On pourra entendre une conférence de Pierre Balmain, Comment j'habille mes rêves. On aura un entretien avec Gérard de Cortance à propos de la mode Zazou, qui n'est pas dans votre exposition, mais elle n'y a peut-être pas sa place. Mais en tout cas, elle a sa place dans le roman de Gérard de Cortance. Et puis, on écoutera aussi des mannequins masculins. On sera en fin de nuit.